Un homme mort à Boissezon. D'après le dossier de procédure criminelle de la Sénéchaussée de Castres, daté de 1754, et coté B296 aux archives départementales du Tarn. Premier épisode. Le 14 novembre 1754, le sieur Rouche, greffier consulaire de Boissezon, écrit à maître Jean-Pierre Roux, avocat et procureur du roi, en la Sénéchaussée de Castres, afin de lui signaler que beaucoup de personnes du Mazage, du hameau de Fial-Suche, viennent de lui assurer qu'il y a un homme mort dans un petit chemin près du dit Mazage. Il lui demande de faire le nécessaire et se met à sa disposition. Dès 11h du matin, maître Roux en réfère à Pierre-Joseph de Bourdoncle, sieur de Saint-Salvi, co-seigneur du Vernier, conseiller du roi et lieutenant criminel en chef au Sénéchal, lequel le reçoit en sa maison, avec, écrivant sous nous, Joseph Ossenac, ancien procureur au Sénéchal, que nous avons pris pour notre greffier d'office, après avoir reçu de lui le serment en tel cas requis. Maître Roux expose le contenu de la lettre, souligne la nécessité de diligenter la visite d'un médecin et chirurgien pour constater l'état du cadavre et le genre de mort, et requiert qu'il leur plaise se transporter tout présentement au dit lieu pour, par un médecin et un maître chirurgien de cette ville dûment assermenté, être procédé à la visite du corps. Le juge criminel commet maître Guillaume Fabre, docteur en médecine de la faculté de Montpellier, habitant à Castres, et le sieur François Savary, maître chirurgien juré, également de Castres, qui, mandés venir, se rendent immédiatement dans sa maison et prêtent leur serment sur les saints évangiles. Premier constat et identification. Le lieutenant criminel, son greffier, le procureur du roi, le médecin, le chirurgien, un huissier en la cour et Jean Verdier, cavalier de la maréchaussée, sommes montés à cheval et nous sommes rendus au dit lieu de Fial-Suche, et de là, dans un champ appelé la Combe de Guillou, appartenant au sieur Huc de Boissezon, dans lequel champ passe un petit chemin qui va dudit Fial-Suche au lieu de Boissezon, dans lequel champ nous avons trouvé le cadavre d'un homme étendu sur le dos et ensanglanté d'un coup de feu qu'il a reçu au-dessous de la mâchoire inférieure du côté gauche. Le dit cadavre nous ayant paru âgé d'environ 45 ans, de taille de 5 pieds, soit 1,52 m, habillé d'une chemisette blanche de cordelas, d'une veste aussi cordelas couleur brune et de culottes aussi cordelas couleur grise, avec des guêtres de toile, portant des souliers à ses pieds. Visage rond, menton pointu, cheveux noirs, le sourcil de même, le nez long. Et ayant été déshabillé, l'avons fait visiter par les hommes de l'art, qui rendent aussitôt leurs relations détaillées. Vu le cadavre, étendu sur son dos, avec son visage ensanglanté, et tué d'un coup d'arme à feu, chargé à balles et plomb, lâché de fort près, qui, ayant d'abord porté un peu au-dessous de la mâchoire inférieure et à la partie gauche, l'aurait fracassé pour pénétrer en partie du côté droit au-dessous de la même mâchoire, ainsi que les blessures de figure ronde que nous y avons vues et la sonde que nous avons employée nous l'ont confirmé. Lesquelles blessures, ayant trouvé en même temps les veines et artères jugulaires, ont été la véritable cause de la mort du cadavre. Pour cette relation, les deux hommes sont taxés, c'est-à-dire payés, 10 livres au médecin et 8 livres au chirurgien, conformément aux tarifs et arrêts du Conseil du 23 janvier 1742. Cette différence s'explique par le fait qu'un médecin est un théoricien, il diagnostique et prescrit, tandis qu'un chirurgien est un artisan, associé au barbier jusqu'en 1691, qui travaille de ses mains, il pratique des opérations, pose des ventouses, opère des saignées. Les médecins sont plus rares et beaucoup mieux considérés que les chirurgiens. Puis vient la recherche de témoignages. Tout d'abord, identifier la victime. Interroger Jean Bernard, Jacques Marty, Jacques Bouissière et Étienne Bonnet, travailleurs de terre, reconnaissent Germain Betsos, travailleur de terre du lieu de Fial-Suche. Il y habitait depuis environ 20 ans avec sa femme et 7 petits-enfants. Ils savent par ouï dire qu'il était parti la veille vers 4 heures du soir pour aller à Boissezon et suppose qu'il devait être sur le point de rentrer chez lui lorsqu'il fut assassiné. Ces hommes, prévenus par le valet consulaire de la découverte d'un corps, s'étaient rendus sur les lieux pour le garder et empêcher qu'il ne fût dévoré par les chiens. Ils n'ont point entendu crier ledit cadavre, oserons-nous dire que c'est rassurant, ni tirer aucun coup de fusil ni pistolet à cause de l'éloignement. Ils ne savent rien d'autre, et on n'a pu tirer d'eux aucun éclaircissement sur l'assassinat. L'huissier et le cavalier de la maréchaussée sont requis de fouiller les poches du mort. Ils n'y trouvent rien, pas même de mouchoir ni couteau. Mettre le corps en sécurité. Et attendu que, suivant l'article 12 de la Déclaration du roi du 9 avril 1736, le corps de ceux qui auront été trouvés morts avec des signes ou indices de mort violente ou autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner ne peuvent être inhumés qu'après avoir fait les procédures et pris les instructions nécessaires à ce sujet, le procureur du roi requiert qu'on ordonne que le cadavre sera transporté à l'hôtel de ville du lieu de Boissezon pour y être déposé en attendant. Il demande également que l'on fasse venir le métayer de la plus proche métairie, avec sa charrette et ses bœufs, pour effectuer le transport. C'est Antoine Christol de la métairie de Cantecaus qui amène sa charrette et transporte le cadavre, les consuls de Boissezon ayant ordre d'ouvrir les portes de la maison commune et d'y entreposer le corps, sur le front duquel l'avons fait apposer le sceau de nos armes avec cire rouge. Vu l'heure tarde, les investigations s'arrêtent et la petite troupe castraise est obligée de passer la nuit aux environs de Boissezon. Report des auditions. Le lendemain 15 novembre, il convient de procéder à l'audition des témoins potentiels. Dès 8 heures, dans l'auberge du nommé Gabaud, où la compagnie a probablement couché, le lieutenant criminel est à pied d'œuvre. Il a décidé d'interroger les personnes assignées dans le lieu dont ils sont habitants pour parvenir plus aisément et plus tôt à découvrir les auteurs du dit meurtre et assassinat et de la manière qu'il a été commis. Cela permet également d'épargner à Sa Majesté les frais des salaires des dix témoins, qui seraient beaucoup plus coûteux s'ils étaient obligés de se rendre en la ville de Castres, distante de 2 lieues du présent lieu. Les témoins convoqués par la justice sont en effet défrayés du temps de travail qu'ils ont perdu en obéissant à l'injonction. En revanche, la désobéissance entraîne une amende. C'est ce qui arrive à Pierre Béziat et Jean Alary, qui n'ont pas daigné se présenter à 9h, ainsi que le porter leur convocation. Ils sont condamnés à 10 livres d'amende, qui sera portée à 20 livres et plus forte peine en cas de récidive. Mais, attendu que les affaires du roi et du public les appellent en la ville de Castres, ainsi que le procureur, la procédure sera continuée dans cette ville où les hommes de loi repartent dès l'après-midi. Parenthèse urgente, l'inhumation. Le 16, en début d'après-midi, le procureur du roi se présente chez le lieutenant criminel pour une affaire urgente. Il vient de lui être représenté par nombre d'habitants du lieu de Boissezon que le cadavre du nommé Germain Betsos, déposé dans l'hôtel de ville dudit lieu, commence à sentir si mauvais qu'il est à craindre qu'il ne cause une infection et contagion préjudiciable au public, et notamment aux consuls, obligés de s'y rendre fréquemment pour la tenue de leurs assemblées et le jugement des affaires de police. D'autant qu'il est de précepte divin de faire ensevelir les morts, surtout lorsque, comme dans le cas présent, il résulte de la relation des médecins et chirurgiens qu'il ne doit pas être infligé de peine contre leur cadavre. Si la thèse du suicide, donc de l'homicide sur soi-même, avait été évoquée, alors le cadavre aurait encouru des peines de justice. Vu que le corps a été formellement identifié et son signalement soigneusement noté, il requiert que soit ordonnée l'inhumation du malheureux Betsos. L'autorisation est donnée, et le desservant de Boissezon sera tenu de mentionner dans ses 2 registres paroissiaux que la sépulture a été faite en vertu de cette ordonnance. De plus, le lieutenant criminel ordonne que les vêtements dudit Betsos seront remis devers le greffe comme pièce à conviction. Le curé Lugan procède à l'inhumation le 17 et l'acte porte la mention de l'ordonnance. Fin du premier épisode.